Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Ricutus. Ricutus, émission d'humour et de fanfaronnade, bien sûr. Autour de moi, autour de cette magnifique table, nous avons plein de gens super, mais comme vous le savez, il est de coutume qu'on commence avec une petite musique. Vous n'entendrez donc pas les voix suaves et bien sympathiques de la fine équipe, mais vous l'entendrez juste après un morceau de notre grand ami Whispering Jack Smith. Avec son titre formidable, c'est un véritable tube. Vous devriez acheter le Scopitone. C'est Me and My Shadow.
Shades of night are falling and I'm lonely, standing on the corner, oh so blue. Sweethearts having fun, pass me one by one. Guess I'll wind up like I always do, with only me and my shadow strolling down the avenue. Me and my shadow, not a soul to tell our troubles to. And when it's 12 o'clock, we climb the stair, we never knock, for nobody's there, just me and my shadow, all alone and oh so blue. When the sun sets on the far horizon and the parlor lamps begin to glow, Jim and Jack and John put their slippers on. They're all set, but we're still on the road. So lonely, me and my shadow, strolling down the avenue. Me and my shadow, not a soul to tell our troubles to. When I go out at night with my old pal, we never fight about any gal, just me and my shadow, all alone and oh so blue. And when it's 12 o'clock, we climb the stairs, we never knock, for nobody's there, just me and my shadow, all alone and oh so blue.
Rictus, Rictus. Eh bien, voilà, c'était donc Whispering Jack Smith avec Me and My Shadow. N'hésitez pas à l'écouter, c'est vraiment très sympathique. Alors autour de moi, je vous le disais, évidemment, je ne suis pas seul. Que serais-je sans les fidèles chroniqueurs et chroniqueuses? Et oui, il y a aussi des femmes.
C'est la révolution.
C'est la révolution, tout
tellement
à fait.
C'est n'importe quoi.
Autour de la table.
Je ne suis pas très à l'aise, mais...
Pardon, pouvez-vous parler à votre tour, je vous prie, très cher. Merci. Je vous en prie, très bien. Nous commençons tout de suite avec...
Ici.
Tout à fait, l'ami David. David, comment allez-vous, David, cher
bonsoir,
collègue?
Bonsoir à vous, monsieur Sébastien. Oh, quel bonheur d'être là pour célébrer cette nouvelle décennie, hein, les années 20 si folles, si...
Oh, je pense qu'il va se passer de belles choses dans le futur, c'est évident. À côté de vous, mon cher David, se trouve l'inénarrable et l'ineffable Pascal.
Eh bien, le bonsoir à tous. Je suis ravi d'être sur les antennes avec vous.
Eh bien, tout à fait, nous sommes dans tous les postes à galènes de France et de Navarre.
Eh oui, tout à fait. Allons-y pour les galéjades.
Je continue ma tournée des gens, des chroniqueurs qui sont autour de nous. Nous avons la délicate et raffinée Suzy.
Eh oui, bonsoir tout le monde, bonsoir.
Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Suzy.
Eh bien, moi de même, très chère, moi de même. D'autant que la présence de femmes dans des radios de ces temps-là est assez rare, n'est-ce pas?
Eh bien, absolument, tout à fait. Symbole du renouveau, symbole des années folles, symbole des avancées sociales. Et toutes les autres pour voilà,
de
pour
grandes avancées sociales. Pour vous, tout, c'est, à
tout à fait, tout à fait. Eh bien, vous parlez très cher. Eh bien, qu'en dira-t-on?
Beaucoup de choses, mon ami, beaucoup de choses. Enchantée, ravie d'être ici.
La délicate et délicieuse et formidable Louise.
N'en faites pas trop, mon mari écoute.
Ah, pardon, bien sûr. On salue bien sûr Gérard qui écoute. Mais
merci,
je me dis.
Pour ton accord, chérie.
Mais qui lui fait à manger pendant que vous êtes ici?
J'ai préparé, vous inquiétez pas.
Oh, la femme qui pense à tout, formidable. Et pour finir, le dernier, mais pas le pire évidemment, peut-être même le meilleur, mais ça nous ne le saurons que à la fin de cette émission, c'est le sympathique et l'affable Cyril.
Bonsoir Sébastien.
Comment allez-vous mon cher Cyril?
Eh bien je vais très bien. Je suis heureux de revenir ici. Ça faisait quelques mois que je n'avais pas participé à cette émission.
En effet, c'est vrai que vous deviez récupérer de votre blessure de la Grande Guerre, de la Der des Der.
Eh oui, ne m'en parlez pas.
Alors, ce scrotum?
Eh bien, justement, ça risque de nouveau péter.
Ah là là, mais la médecine fait
c'était
de grands progrès.
C'était donc sale odeur.
Je tiens à dire que les gueules cassées passent très bien à la radio.
Excellent, toujours un bon mot, c'est ce qu'il nous faut.
Vous avez bien compris.
Merci Pascal.
Il n'y a qu'un homme pour avoir de l'esprit.
Allons, pas du tout, je suis sûr que vous en aurez aussi dans cette émission. Allez, on ne sait jamais, tout est permis.
Surtout l'espoir.
Bien, il est temps de passer à la première chronique. Comme vous le savez, nous aimons beaucoup faire des devinettes et des quiz. Or, celui-ci, il est bien sympathique. Il est, oui, des quiz.
Des
quiz. Il est rigolo et farfelu, c'est donc le quiz farfelu.
Quiz, quiz, farfelu.
Eh bien voilà, nous voilà donc pour ce quiz farfelu. Des questions et des réponses à l'appel. Ce n'est pas drôle, pourquoi je fais ça? Alors, nous avons 4 questions. Pour ces 4 questions, à chacune des questions, je vais vous faire 3 propositions. Vous devrez choisir entre ces 3 propositions et bien évidemment les motiver. Me dire pourquoi. Je ne veux pas entendre « Ah, parce que j'aime bien A ». Même si, peut-être que c'est une réponse, en fait, non, ouais, ah, d'accord. Alors, commençons tout de suite avec la question numéro 1. Un scientifique a proposé à notre gouvernement le masque Giroux. Cette invention a été refusée. Mais quel était donc ce masque refusé? Petit A, un masque à gaz pour chevaux pour qu'ils galopent entre les tranchées. Petit B, un masque de faciès allemand pour se fondre dans les lignes ennemies. Petit C, un masque à gaz pour l'urètre des soldats pour éviter les cas d'impuissance. Et nous allons commencer par Cyril.
Eh bien, je vais dire B parce que j'aime bien la réponse A.
Merci Cyril, votre esprit de logique et synthétisation.
Vous m'avez dit que je pouvais pas dire A parce que j'aime bien la réponse A.
Cyril, êtes-vous... Il n'y a pas que le scrotum qui a été touché, je crois. Tout est lié apparemment. Merci donc.
Ça vient de péter.
Oh. Ramasser tout ça.
Je dirais que c'est plutôt le A, parce que les chevaux, comme tout un chacun, ont besoin d'un masque, surtout pour quand ils sont pas beaux.
Merci, vraiment vous êtes d'un apport incroyable et inégalable ce soir. Passons à la jeune Louise, s'il vous plaît.
Après une grande réflexion de 2 minutes, pour une femme c'est beaucoup. Je dirais le cheval, cet animal fantastique et merveilleux, car je n'ai pas de sens de l'humour.
Bien, c'est noté.
Ça se voit.
Alors, mon cher David, A, B ou C?
Je ne suis qu'une femme, vous savez.
arrêtez d'être cynique, le monde est merveilleux.
Mais bien sûr, pour les hommes.
Non, bah...
Alors, moi, est-ce qu'il est drôle? C'est fou ça.
Moi je soutiendrais la réponse B. Oui, on en a mis suffisamment sur les Allemands et nous en avons mis beaucoup. C'était pas la peine de leur donner des masques en plus.
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la réponse, mais je note le B, un masque de faciès allemand. Très bien. Mon cher Pascal.
Mais tout le monde sait que le masque Giro était censé être le phare de la nouvelle tendance, le Girophare.
Oui.
Pardon, c'est moi.
Merci bien,
voilà.
Merci bien.
Rayon de bon.
En fait, pas trop. Ça commence à faire faux.
Alors, mon cher Pascal.
Mais je dirais, moi aussi, le masque pour les canassons. Car on sait bien que le canasson, s'il court trop vite, il risque de s'asphyxier. Donc ça serait bien qu'il ait un masque pour traverser les tranchées et tous les barbelés.
Eh bien, très bien, je le note. Et nous finirons par notre chère Suzy.
Eh bien, écoutez, par solidarité féminine, je dirais la même réponse que la seule autre femme présente à cette table.
C'est moi.
Oui, c'est elle.
Très bien, donc voilà. La réponse le canasson, suscite oui, tout à fait, oui. Le canasson, voilà. Tout à fait.
Je ne sais pas pourquoi, hein, c'est juste la solidarité.
Très bien, eh bien, je figurez-vous que cette solidarité, aussi étonnante soit-elle, vous fait gagner, car effectivement, c'est la bonne réponse. C'est un masque à gaz pour les chevaux pour qu'ils galopent entre les tranchées. Mais celui-ci a été refusé car il était beaucoup trop lourd et c'était un inconvénient, les chevaux ne voyaient absolument plus rien. Voilà, c'est vraiment dommage.
Ils n'ont pas fait des lunettes pour aller avec ?
Je ne m'abaisserai pas à répondre à cette question. Ils ont essayé, ceci dit, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Parce que la monture est beaucoup trop grande.
Comme dirait notre président Poincaré, ce n'est pas un échec.
Exactement. Rien n'est un échec. C'est un succès qui
n'a pas marché.
Se renie. Oui, tout à fait, merci. Merci beaucoup pour tout ça. Très bien, alors... mis à part donc monsieur David,
oui.
Tout le monde a un point. Je ne compte pas les points, débrouillez-vous, comptez vos points.
Ah,
voilà. Ah oui, non,
je ne sais pas compter.
Nous sommes quatre à avoir eu le point, donc c'est un point carré.
Faites un effort, mon Dieu. Oh, notre président doit bien rire de là où il est. Question numéro 2. Aux États-Unis d'Amérique, c'est une femme qui est présidente. Bon, mais comment diable cela a pu arriver? Petit A. Après une attaque cérébrale du président, c'est la première dame qui dirige jusqu'à la fin du mandat.
Le pauvre.
Petit B. Le président a commencé sa transition en début de mandat et est devenu femme 6 mois avant la fin.
Blasphème.
Petit C. C'est un canular radiophonique de grande ampleur qui a berné le peuple américain.
J'espère.
Nous commençons tout de suite avec Suzy. Très chère Suzy.
Eh bien moi je pense que c'est la dernière réponse. Parce que enfin on, déjà que c'est non vraiment c'est inenvisageable.
Inenvisageable.
C'est pas possible. Je les regarde en fait.
Eh bien très bien. C'est noté. Donc c'est la réponse C. Pascal.
Excusez-moi. Un coup de grisou. Oui, tout à fait. Mais enfin, je ne sais pas qui est cette Amanda dont vous parlez non-stop dans votre petit développement, mais moi, je suscite aussi la blagounette. Je sens que les Américains, les Ricains, les Join-Join sont des amateurs de blagounette et que s'ils ont voulu faire un beau canular.
Très bien, c'est à vous noter. Je note aussi, c'est un canular. David, mon cher David.
Je dirais la réponse A. Ils sont capables de tout, ces Américains, on le sait bien.
Mais bien sûr.
On le sait bien. Et bientôt, ils gouverneront le monde.
Mm-hmm. Oh là là, bien sûr que non. Notre France éternelle y veillera et le président Poincaré fera stop. Ma chère Louise.
Je ne m'arrêterai pas à répondre à vos questions sexualisant les hommes. Ça me... Ouf. Ne me mets pas à l'aise. Du coup, je pensais pour le canulaire. Merci. Respectez-vous un peu.
Très bien, très bien. Une réponse. Et mon cher Cyril.
Eh bien, je suis comme David, je pense que la réponse A est la réponse adéquate, car je pense que, par contre, ça a été totalement masqué, personne ne l'a su, et heureusement, parce que ça aurait été une émeute.
Émeute.
Une émeute.
Une révolution. Révolte.
Eh bien, très bien. Eh bien, je vais vous le dire, tout simplement. La réponse est la réponse A, en effet. Tout à fait. C'est le président Wilson qui n'était pas bien avec une attaque cérébrale. Et dans les faits, c'est sa femme qui a géré les affaires des États-Unis jusqu'à la fin du mandat.
Scandaleux.
Tout
ça
à fait.
Ça a été une catastrophe d'ailleurs.
Ça n'arrivera pas en France, je vous le dis, j'en suis sûr.
J'espère bien.
Bien évidemment.
J'ai trop peur.
Dernière question, donc le point va à David. David qui n'avait pas de point, ce qui fait que tout le monde ex aequo.
Et voilà. Non. Et j'ai dit la même chose que lui.
C'est vrai.
Allons bon, c'est vrai, mais comme je ne vous écoute pas, Cyril, c'est fou.
Et voilà.
Eh bien, c'est Cyril qui a deux points. Question numéro 3 et dernière question, car le temps presse. Je regarde sur ma montre à gousset. Aïe, 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 aïe. Question numéro 3. Aux États-Unis d'Amérique, encore une fois. Oh non, je vais changer, je vais prendre l'autre question.
Je vous sens à gousset.
Je n'ai pas compris.
L'humour est intemporel.
Intéressant. Est-ce que ça a un rapport avec aïe 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 que...
Allez-y, allez-y, enchaînez.
Très bien, oui, c'est mieux. Dernière question. Qu'est-ce que la douche électrique à air chaud et froid inventée en 1926? Petit A, le premier nom du sèche-cheveux. Petit B, un appareil pour aider à exécuter les condamnés à mort. Petit C, la première vaginette avec effet lissant.
Alors,
oui, tout à fait, mais Louise, vous allez
en articulant, s'il vous plaît.
Alors,
la question.
Qu'est-ce que la douche électrique à air chaud et froid inventée en 1926? Petit A, le premier nom du sèche-cheveux. Petit B, un appareil pour aider à exécuter les condamnés à mort. Petit C, la première vaginette avec effet lissant.
Écoutez, étant une femme, je n'ai aucun intérêt pour tout ce qui est autre que les cheveux. Mais je dirais...
Cette attente est insupportable.
Les cheveux.
Les cheveux, tout à fait. Donc pas l'effet lissant, mais le sèche-cheveux plutôt.
Tout à fait.
Très bien, je le note. Cyril, mon bon Cyril.
Eh bien, comme vous le savez très bien, j'adore mes cheveux. Et je peux vous dire que c'était évidemment un sèche-cheveux. Je m'en suis moi-même servi à l'époque. Enfin, à l'époque, je veux dire hier.
À l'époque d'hier, oui. Mais c'est vrai que vous, chaque jour est une nouvelle époque. Ah là là, la vie est une aventure. Ma chère Suzy...
Eh bien, je penserais aussi pour le sèche-cheveux. Je me dis que, bon, étant donné que c'était un prototype, il ne devait pas encore très bien maîtriser l'ambivalence entre le chaud et le froid. Et oui, ça me semble assez plausible comme réponse, mon cher Sébastien.
Eh bien, écoutez, c'est extrêmement motivé et je dis bravo. Comme quoi, on peut être fiers de nos femmes françaises.
Bravo.
Le sèche-cheveux, mais quelle drôle d'idée. Sèche-cheveux, c'est, je veux dire, la mode est aux cheveux laqués, non? Et tout le reste est pour les laquais. Moi, je dirais la réponse B. Ah oui, excusez-moi, c'est une blague de canard.
Vous êtes impayable, Pascal.
Ah, je sais, je sais. Je suis sur les rails du succès. Oh. Je partirai donc sur la réponse B, parce que je me rappelle plus qu'elle était, mais je ne peux pas prendre ni la réponse A, ni la réponse C. Donc, par élimination, je prendrai la réponse B.
Eh bien, c'est un appareil pour aider à exécuter les condamnés à mort.
Mais logique, oui. Je veux dire, la technologie est forcément...
destructrice.
Oui, elle est là pour aider la guerre, l'effort de guerre. Sans elle, nous n'aurions certainement pas gagné la guerre.
Absolument, mais néanmoins, il n'y a plus d'effort de guerre car nous avons gagné. Oui, c'est la paix à volonté.
Oui.
Pour des années
mais
de temps.
Mais peut-être pas les cheveux.
On en a pour au moins 50 ans.
Ah bah oui, vous verrez en 1940.
Comment ça?
Bah, vous voyez, le bonheur, on vivra tous ce riz.
Ce sera les années bonheur.
Attention aux Belges, on ne sait jamais. Hein.
Les femmes seront animatrices radio.
Oui,
on ne rêvait pas trop.
Certaines n'auront pas besoin de sèche-cheveux. Mon cher David.
Oh bah vous savez, moi, les questions d'hygiène, tout ça, hein, toutes ces bondieuseries, je laisse ça aux femmes, hein, donc je vais écouter les femmes.
Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, j'ai défailli.
Non, vous êtes sur la réponse A, n'est-ce pas?
Absolument.
Eh bien, effectivement, c'est le premier nom du sèche-cheveux.
C'est nous un avons scandale
donc, nous avons donc Cyril, le grand gagnant du quiz farfelu.
Oui,
Cyril, permettez-moi de vous dire que vous êtes un drôle d'oiseau, un sacré énergumène.
Vous en êtes un autre.
Oh, mais voyons, allons, je vous en prie, de même.
Quelle sagacité, je suis impressionné, mon cher Cyril.
Et c'est ainsi
merci beaucoup.
Que se conclut ce quiz farfelu.
Erictus, rictus.
Eh bien, voilà. Merci d'avoir participé à cette première chronique qui nous met en joie, nous met en tension et nous met en noumé, tout simplement. Voilà, je n'ai pas d'autres mots.
Nouméa, peut-être.
C'était quand même très osé, ce démarrage d'émission. Hein.
Il est vrai qu'on casse un petit peu les codes ici dans Rictus.
On a peur de rien.
n'importe rien.
Oh non, même là, nous faisons fi de la censure, mmh, bien
oui.
sûr.
Tout à fait, tout à fait.
Et j'aimerais faire un petit tour de table. Que souhaitez-vous pour ces années folles? Qu'est-ce qui correspond pour vous le plus à ces années folles, finalement? Qu'est-ce qui est symbolique, finalement? Parce qu'on est en plein dedans, c'est la fête. C'est chouette.
Oui, eh bien moi, ce que j'aime, c'est essentiellement la folie dans les clubs, tout le strass et toutes les paillettes. J'aime beaucoup la musique charleston, notamment.
J'adore.
Eh bien, merci Cyril. Quelqu'un d'autre souhaite parler?
Je pense qu'après la guerre, nous pourrions peut-être célébrer dans ces années la culture. La culture qui se relance, qui s'émancipe, qui nous voit nous dépayser totalement, partir à des entrées, des mondes incertains que nous n'avons jamais visités par le passé.
Je vous ai perdu au mot culture. Mais vous avez tout à fait raison, mon cher Pascal. Bien sûr, allez-y, Louise.
Ah
bien
non,
sûr.
J'écoutais pas.
Ah, eh bien...
Elle passait certainement le balai.
Il y avait une tache sur la vitre, alors du coup, j'ai perdu. Fallait pas.
Non, d'accord. C'est rien, c'est Cyril. Excusez-moi. Qui se baladait derrière.
Ah, d'accord. C'était ça, ce scrotum, d'accord.
Oui.
J'en ai encore un autre. Je savais pas quoi ça ressemblait, j'étais saoulée, ça me perturbait.
Quelqu'un veut-il prendre la parole, profiter de ce moment de liberté pour dire... voilà, pour dire que les années folles sont folles, tout simplement.
Ouais, je pense que je vais profiter de ça pour visiter un petit peu tout ce qui est au nord de la France, un petit peu tout ce qui est bien pacifique maintenant, notamment l'Allemagne. Je pense que l'Allemagne
de
est vraiment
personnes.
Maintenant calmée pour longtemps. Il y aura vraiment maintenant un esprit fraternel avec eux. C'est-à-dire nous
calmer,
serons ouais. supérieurs à eux, tout simplement. Et que... voilà, donc j'espère qu'ils comprennent que maintenant, qui est le chef, voilà.
Ils ne passeront plus jamais les frontières.
Surtout que moi, je trouve assez intéressant et très vivifiant pour l'esprit l'arrivée de ce nouveau leader en Allemagne.
Petit moustachu.
Oui, alors
je
suis allé à une exposition, c'est fantastique, une exposition de peinture, il est... ravissant.
Un homme d'avenir.
Exactement.
Je pense que...
espérons qu'il reste dans la peinture. C'est un artiste en devenir.
Oh, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup de choses dans l'industrie.
Qu'est-ce qu'il parle bien d'ailleurs? C'est fou, franchement. On comprend tout ce qu'il dit.
Oui. C'est vrai que
même
ça évoque
quoi.
La jeunesse.
Vous parlez
hein.
allemand?
C'est pas vraiment un truc pour les vieilles filles.
Exactement. Tout à fait.
C'est vrai qu'on peut dire qu'il bosse dur.
Je n'ai pas compris la référence.
Allons.
C'est
continuons.
Bien que vous ayez un chat dans la gorge, vous.
Tout à fait. Oh là là. Mon cher David, vos transitions sont claires et limpides.
Quel chat crippant.
Comme de l'eau d'une douche.
Merci. Nous allons continuer avec la chronique de notre jeune Louise, qui s'appelle La vieille fille et son chat.
C'est une gamine charmante, 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 qui possède une âme innocente, innocente.
1910. Le devoir conjugal est une obligation. Pas de viol entre époux. 1915. Les femmes disposent de l'autorité parentale en l'absence du mari, uniquement pour la durée de la guerre. 1920. Loi faisant de la contraception et de l'avortement un délit pénal. 1922. Le Sénat refuse le droit de vote aux femmes. 1940. Des femmes commencent à devenir animatrices à la radio. Mars 1920. Extrait de mon journal. Je me réveille dans ma chambre de bonne, le chat au bout du lit, le froid rendant l'espace inhospitalier. Je n'ai pas le temps de m'en faire pour ça. Je dois me lever pour aller m'occuper d'enfants qui ne sont pas les miens, ceux d'une femme qui, elle, a réussi. Sa chambre à elle est le champ de guerre victorieux d'un devoir conjugal patriotique assouvi. Repeuple la France, femme égoïste. Aime tes enfants, élève-les, rends-les amoureux de leur pays. Et pourquoi faire ? Une autre guerre ? Non, je ne dois pas penser comme ça, je ne dois pas penser comme ça. Ma mère me dit souvent que l'hystérie et l'asile me guettent. C'est généralement quand je lui pose des questions sur mon rôle de femme. Une femme fait son devoir à la maison, en nourrissant et en éduquant les enfants, rien d'autre. Je me tais, je consens, en silence. Et c'est en silence que j'ai consenti au mariage. La guerre, elle, a commencé quand j'ai eu 22 ans. Promise à un homme stable et solide que mon père estimait énormément. À un travailleur acharné, il fera un bon mari. C'est tout ce qu'un homme doit savoir faire. Moi, j'ai appris la cuisine, le ménage, la patience, la pondération, la culture limitante, me cantonnant à des tâches ménagères réalisables grâce à ma condition servile propre à mon sexe. Pourtant, petite, je rêvais d'être cette femme parfaite. Mariée, étendant son linge blanc dans le jardin de sa petite maison, ses enfants courant autour d'elle, jouant aux chevaliers et aux princes, riant à gorge déployée, mon mari rentrant d'une dure journée de labeur, m'embrassant sur la joue avec tendresse. Une image simple et pourtant illusoire. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Il n'était ni laid, ni beau. Il ne me plaisait pas tant que ça, mais le mariage était pour moi le début d'une fin logique, mon destin d'humaine. Nous nous sommes mariés le 20 juillet 1914. Une semaine plus tard, il était appelé sur le front. Nous échangeons des correspondances enflammées à sens unique, pendant toute la durée de la guerre. Mon devoir est celui de soutien psychologique. Je suis sa raison de rentrer au village, je suis sa raison pour casser du bois, je suis sa raison pour ne pas perdre son humanité. Il me rêve, dans la cuisine, à l'attendre bravement, avec mon bon petit plat fumant. On me dit souvent ça. Je suis une brave fille, à l'attendre, une brave fille. Notre mariage de 8 jours a été évidemment consommé, une fois, pour sceller le contrat dans la chair et la gêne, sans aucun résultat de grossesse. Je suis seule, une terre fertile, abandonnée, et je fais pitié. Toutes ces femmes, elles, ont de gentils maris soldats qui leur ont au moins laissé un enfant pour se réaliser derrière elles. Elles auront au moins de quoi s'occuper en plus du travail quotidien. Quant à moi, je suis l'intouchable, la femme de soldat, propriété virginale d'une idéologie que je ne comprends pas, qui ne me correspond pas. Je me tais et je consens, et je culpabilise. Je n'aime pas cet homme que j'ai épousé. Guerrier, perdant à chaque seconde son humanité, je ne l'aime pas, il me fait pitié. Chaque semaine, je recevais une lettre, chaque semaine, je le voyais disparaître. Quand allait-il revenir? Comment allait-il revenir? J'ai souhaité une fois qu'il ne rentre pas. Peur de ne pas reconnaître cet homme solide et stable que mon père appréciait. Peur de voir le mari idéal rester la bête sanguinaire que la patrie a créée, que la guerre a dorlotée. J'ai appris sa mort au front, 2 semaines avant l'armistice. Une mine, un faux pas. La fin futile d'une vie vide de sens. Notre histoire ridiculement maudite n'a eu pour début et pour fin qu'absurdité et tristesse. 1918, l'année où la France se libère du joug de la violence et de la stupidité de la guerre. 1918, l'année où moi, je me libère du joug de la violence et de la stupidité de la société. Je suis veuve, un homme mort est mon propriétaire, et il le reste bien après son décès. Je n'ai plus d'utilité ou d'attrait. Ah si, je peux au moins aider à élever et éduquer les armées d'enfants que pondent les femmes autour de moi. Elles doivent repeupler. Je n'enfante pas, mais je dois participer au devoir national. J'éduque. Les garçons aux maths et à la logique, les filles à la tarte aux pommes et à la couture. Pourtant, je te vois, femme. Je te vois, mère, entourée par tes 5 enfants de moins de 8 ans, portant en ton ventre en ce moment même le 6e, au bord de la crise, subissant la pénalisation de la contraception et de l'avortement. Ce mot en A qui te terrorise. Comment pourrais-tu choisir égoïstement de ne pas avoir d'enfants, de ne pas industrialiser ton propre corps? Je te vois pourtant jalouser ces Parisiennes, elles qui profitent de la fin de la guerre pour en reprendre une. Oui, la guerre est finie, mais la lutte pour leurs droits reprend. Leur droit à la liberté est une guerre silencieuse. Silencieuse et maudite de cet égoïsme qui t'angoisse et t'insurge. Ce sont pas des vraies femmes, mais des garçons, me répètent ces mères en berçant leurs enfants, le regard désapprobateur. J'y retrouve non sans amusement cette perfidie que les hommes haignent nous attribuer. Intérieurement, je souris. Oui, je suis veuve de guerre. Oui, je n'ai pas d'enfant, mais je me sens libre. Libre de monter sur Paris, rejoindre ces femmes qui, elles, luttent pour notre droit à voter, notre droit à être citoyenne. Je ne peux plus être le témoin silencieux de la souffrance des femmes. Des enfants meurent de faim, des femmes meurent en couche. Il est temps de se lever, de prendre la parole et de lutter. Ma chance? La mort d'un homme qui, lui, a eu la malchance de devenir mon mari. Je préfère rire de cette ironie. Un homme meurt, une femme se libère. Qui sait, un jour, il n'y aura plus besoin de sacrifier des hommes pour libérer les femmes. Ou peut-être même que les deux sexes finiront par comprendre que l'égalité n'est pas à gagner, mais quelque chose qui est inné et simple. Je suis décidée, je pars. Au village, on me traite de sorcière. Il est plus simple de m'imaginer méchante et diabolique que de reconnaître les torts des hommes. Je décide d'adopter ce chat. Imagine-moi sorcière, crois-moi, mais respecte-moi. Mon devoir n'est pas de repeupler, ou de travailler, d'éduquer, de cuisiner. Mon devoir est de m'insurger. Je ne suis ni mère, ni femme, ni épouse, ni ménagère, ni infirmière, ni muse, ni prostituée, ni soumise. Et c'est peut-être ça qui t'effraie. Je suis féministe.
Erictus. Erictus.
Bien, je pense que le mot le plus simple serait d'envoyer la musique derrière tout ça.
Je ne connais pas le dernier mot.
C'était très drôle en tout cas.
Moi, j'ai pas écouté. J'ai trouvé. C'était probablement charmant et frivole, comme vous savez seul le faire.
C'était fantastique, le bruit des écouteurs.
Merci, merci mon
ami.
C'est
beau de rêver.
Oui, les illusions, la naïveté, tout ça, ça vient avec l'écriture. Hein. Dès qu'on a du savoir, vous savez, les femmes, on ne se contrôle plus.
Du savoir.
Et bien, suite à cela, je vous propose un petit moment musical pour avaler tout ça et ingurgiter tout cela avec Bessie Smith et son Saint Louis Blues.
I do see that evening sun go down. Yes, I do see that evening sun go down. Oh, my baby.
Eh bien, les amis, le croyez-vous ou pas, j'ai eu une idée en mâchouillant des noix de cajou. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait de mâchouiller des noix de cajou devant un micro?
Avec la voix de 1920.
Je pense que ce serait fort agaçant, car toute personne, pour ne pas dire femme, ayant des bonnes manières, sait qu'il ne faut pas faire de bruit de bouche en mâchant.
Coucou, toi, coucou.
C'est cocasse.
Tu ne connais pas l'ASMR.
Mais qu'est-ce donc ?
Une suite de lettres, désolé. Non.
Exactement.
C'est même pas dans l'ordre alphabétique.
Eh bien Cyril, voilà donc une invention qui a l'air très intéressante. Mais nous en reparlerons sûrement plus tard.
En tout cas, heureusement que nous n'avons pas l'image, hein, qu'il n'y a que le son.
Oh, Dieu nous préserve d'avoir un jour l'image des gens qu'on entend.
Surtout avec nos gueules cassées.
Absolument, non, le monde n'est pas prêt pour cela.
Qui l'est ?
Qui l'est ? Mais tout à fait, mais qui l'est ? Vous le dites, ben, je ne sais pas, personne.
Non, je vous jure que personne ne l'est.
Mais je me sens visé. Autant pour Cyril, je peux comprendre. Autant pour les autres, il y a quand même. Ce sont de bons partis.
On sent qu'elle s'est un peu
comment
libérée.
Comment ça, quand même.
Elle est un petit peu délivrée depuis qu'elle a fait son petit coup d'éclat.
Causez-vous
presque à ça de voir mon libraire.
Et c'est tout de suite, effectivement, la chronique. Libraire et délivré, avec un générique à la bouche, car on est foufou.
On est foufou, on improvise.
Est foufou.
Libraire et délivré.
Appelez le standard pour être livré.
Tu m'étonnes, Charleston.
Et le beat est là, c'est magnifique. Ah, j'aime quand la culture s'exprime, c'est magique. Bien le bonsoir. Alors que la France se soigne, se reconstruit, la culture, elle, renaît. La France victorieuse, délivrée de la guerre, la France a libraire pour lire et en toute franchise, le libraire délivré a conseillé la France. Moi, Pascal, dis-le, lettré. M'engage sur les ondes de Radio Montpellier à servir et à faire la promotion de la culture française et de la patrie moine. N'en déplaise au clergé. Chers poilus, chers gueules cassées, chers auditeurs, dans les librairies de Navarre, de jeunes auteurs s'invitent sur les tables et font fureur dans le cœur des lecteurs. Réjouissons-nous, il y a du pied dans la chaussette. De quoi aller au paddock bien accompagné. D'un bel ouvrage, évidemment. Quel tais-vous si vous prêtiez à mes mots de mauvaise interprétation ? Passons outre les blagues et allons à la rencontre de ces auteurs épatants et de leurs bouquins qui le sont tout autant. Je sens votre impatience et de loin de moi l'idée de vous couper la chic. Rentrons dans le vif du sujet. Brève de galéjade, les godillots sont lourds. Prenons les routes de la culture et dépassons allègrement les 50 kilostos à l'heure. Ne perdez plus votre temps et partez à la recherche du temps perdu de Proust, une œuvre cathédrale qui fera grand bruit dans les églises et dans vos chaumières. Quand la littérature devient de l'art, ce n'est pas pour les cochons, mais pour vous autres, mes bons citoyens français. Régalez-vous, c'est aussi délicieux qu'une madeleine. Ne chômons plus, comme on le dit au château. Amateurs et amatrices de lecture à scandale, ne ratez pas le dernier livre de Raymond Radiguet. Explorez les mécaniques de la passion dans le diable au corps. Le récit d'un amour adultère et tragique, ardent et sincère. La presse en parle, le public s'en délecte, et personne ne reste indifférent devant le talent de cet auteur prometteur. Un livre qui a du corps et qui réveillera le diable en vous. Incorrigible, André Breton et Philippe Soupeau nous proposent Les Champs Magnétiques. Un livre fort et caustique, à l'écriture automatique. Une œuvre chapeautée et troussée de quelques épithètes cocasses. Vous l'aurez compris, il s'agit là ni d'un récit soupolé, ni du fruit défendu du suppôt de Satan, mais d'un mets raffiné qui se déguste comme un palais breton. En cette belle décennie, les femmes ne sont pas en reste. Notamment avec la plus chouette d'entre elles, Colette. Le blé en herbe ne vous laissera pas de marbre. La femme coquette se dévoile sous la plume espiègle de Colette. La gentedame s'intéresse ici à l'origine du monde et sans pudeur dévoile les plus grands mystères au travers d'une étonnante initiation au plaisir de la chair. Scandaleux ! Avec le blé en herbe, voici un sujet sulfureux qui ne manquera pas de rapporter du blé et de vous couper l'herbe sous le pied. Mais si vous n'avez pas encore fait votre profession de foi, ou que pour une fois vous êtes en crise de foi, tournez-vous sans conteste vers le prodigieux François Mauriac, qui, dans son baiser lépreux, vous redonnera du baume à l'hospice ou au cœur. Un texte saisissant qui, je parjure, touche au divin et fera fondre les preux chevaliers et promettra des doux baisers aux lépreux chauves. Plus moderne, Jean Cocteau interroge le gamin en nous. Dans ses enfants terribles, le fantasque écrivain nous ouvre son imaginaire avec comme scène principale une chambre, théâtre d'une évasion littéraire, poétique, mythologique et biblique. L'enfant terrible de la littérature concocte aux gens du peuple et à ses fidèles lecteurs un livre qui fera trace dans les annales. Un bonheur contagieux qui vous rendra accro, vraisemblablement l'opium du peuple, terriblement addictif. Et enfin, si la lassitude vous touche, faites une escale à l'Hôtel du Nord, un roman populiste. Encore le coup de grisou. Signé Eugène Dabi, qui se met à nu en racontant son histoire familiale. Sur l'autel de la culture, Eugène a ça dans le sang. Sa littérature prolétaire parle des vrais gens, de la misère, de la France d'en bas ou du Nord. Un récit qui vous touche, Dabou, Dabi. Dabi sans tabou, sans gêne et avec Eugène, d'habitude. Cher poilu, cher gueule cassée, chers auditeurs, vous l'aurez compris, la culture française a de belles années devant elle. Ce n'est pas demain que les Allemands reviendront à nos frontières. L'aura de la France est à son paroxysme. Nous ne serons pas en berne avec des auteurs comme Bernanos. Tous les feux sont au vert avec Green. Nos terres sont en fleurs avec Victor Marguerite. Et plus jamais notre patrie sera en cendres. Parole de Sonnerard. Où les félons et les fiefés finiront sous la plume aiguisée de Louis Guillotine. C'était Pascal, dit le lettré, pour les ondes de Radio Montpellier. Merci pour votre écoute. Ainsi le libraire tait ses mots. L'égalité se repose. La fraternité se sucre. Vive la France cultivée. Bonsoir.
Erictus. Erictus.
Eh bien oui, car c'est aussi ça, Rictus, ce sont des bons conseils si vous avez envie de lire. Et quoi de mieux que de lire quand on n'a rien d'autre à faire, finalement.
Mais oui, j'en prendrai deux.
Eh bien c'est très bien, vous voyez, déjà des achats, nous faisons marcher le commerce, c'est bien.
Si ton mari l'autorise, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Eh bien nous envoie...
C'est lui qui paye.
C'est lui qui paye, bah bien sûr. Je ne dispose pas encore de mon salaire librement. Je n'ai pas de salaire librement.
Il faut faire
de
compte.
Mais quelle drôle d'idée, la liberté chez une femme.
C'est dingue.
Mais oui, bien sûr. Alors quoi de mieux que se reposer sur la bourse de son mari.
Ça.
Tout simplement. Oui.
En grand, encore bien... faudrait-il de ne pas les vider.
Allons, tout de suite, voilà. Vous
arrêtons
la science-fiction.
Il en a... Il est monobourse, cela arrive
il
à tout le
monde. Il a fait la guerre, ça arrive à tout le monde.
Tout à fait, poser une couille sur une mine, ça arrive à tout le monde.
C'est une mine personnelle et pas anti-personnelle.
Très bien. Eh bien écoutez, oh là là, mais que de bons conseils nous avons eu. Et je vous propose...
D'ailleurs je trouve que vous avez bonne mine.
Eh merci. Si j'y vais bien, c'est j'y vais mine.
Oh, elle est belle ceci, elle est belle.
Tout à fait.
Anachronisme.
D'ailleurs je tiens à saluer notre héros de la Première Guerre mondiale, le général Pétain qui nous a aidés à sauver les Allemands.
Merci, grâce à lui, hein. Franchement merci.
C'est héros national.
C'est un grand homme, héros.
Et grâce à lui, on peut dire que Cyril pète un coup.
Et d'ailleurs, ça m'a fait péter mon scrotum.
Vite, infirmière, amenez du fil et des aiguilles.
Arrêtez de le laisser traîner partout, ça devient dérangeant.
J'ai cru que c'était un animal tout à l'heure, je me suis fait avoir.
Il a aboyé.
Bah oui.
Eh bien, continuons, puisqu'on parle de conseils, on parlait de conseils de lecture. Maintenant, nous allons écouter notre ami Gustave Henry, qui lui vous donnera des conseils de vie, puisque c'est Gustave Henry, votre boussole de vie. Jeune homme, oui, vous qui m'écoutez sur votre gramophone. Oubliez vos illustrations coquines de femmes en gaine. Il est temps pour vous de vous lancer dans la bagatelle dans une optique d'union maritale à court terme. J'ai envie de vous poser une question. Où vous voyez-vous dans 6 mois, 1 an? Êtes-vous satisfait de ne point être marié alors que vous avez bientôt 20 ans? Qu'en disent vos camarades? Vous ne savez pas? Eh bien, je vais vous le dire. Ils commencent à se demander si vous n'êtes pas un inverti. Et ce crime, je vous le rappelle, est passible de prison. Alors le temps presse. Entendez-vous le tic-tac de votre montre à gousset? Je suis Gustave Henry, votre boussole de vie. Et votre existence monotone touche à sa fin. Je vais faire de vous le dandy de ces dames. Pour cela, vous devrez vous délester de quelques francs chaque semaine et je vous ferai parvenir un télégramme avec des informations qui vont changer votre vie. Oubliez tout d'abord le mariage arrangé ou mariage de convenance. Ces dames rêvent désormais d'amour. Eh oui, souvent femmes varient. En tout cas, cela va considérablement nous compliquer la tâche. Voyez-vous ? Car pendant que vous étiez au front, les femmes ont fait tourner la France et ont pris la confiance. Alors désormais, il va vous falloir les séduire. Mais vous pouvez le faire. Vous êtes le futur chéri de ces dames. Et vous avez un grand atout dans votre manche. Vous avez un peu d'argent. Pour cela, il vous faudra dépenser votre solde de guerre pour acheter une automobile de chez les frères Peugeot. Roulez un peu dans les rues et toisez du regard les femmes qui marchent. Arrêtez-vous un café pour prendre... un café. Et c'est maintenant que tout va se jouer. Avant de sortir de votre voiture, utilisez votre avertisseur sonore. Regardez alors dans le café quelle femme se retourne et ou sursaute. Sachez, l'ami, que parmi ces donzelles se trouve la femme de votre vie. On sait désormais qu'un mâle alpha arrive. Oh, pou. Rentrez dans le café, allez vous asseoir auprès de la première demoiselle qui croisera votre regard et demandez-lui d'un air faussement désolé si votre avertisseur sonore ne l'a pas trop surprise. Ha ha ha, clin d'œil comme on dit chez les Anglais, smiley. Et ensuite, parlez-lui de vous, mais que de vous, uniquement de vous. Les femmes adorent que les hommes leur parlent d'eux. Elle va d'ailleurs vous poser des questions sur vous, ne lui en laissez pas le temps. Vous seul comptez. Vous êtes désormais le centre de son univers. Elle est juste en orbite. Ne lui parlez pas de la Grande Guerre, malheureux. Si vous commencez à lui raconter les horreurs que vous avez vues, elle va penser que vous êtes un de ces malades qui ne veut pas se faire soigner de ses traumatismes. Et que cela vous empêchera de hisser la grand voile pour la déflorer. Et on veut déflorer. On aime la défloration. On veut tripoter de la mistinguette, hein ? N'utilisez jamais les phrases du type « je sens », « je ressens ». Ça me touche. Cela montrerait votre faiblesse. D'aucuns diront votre humanité, mais ces gourgandins n'y connaissent rien contrairement à moi. Moi, Gustave Henry, l'homme aux 500 coïts, toutes disciplines confondues. Je suis le jardinier de la bagatelle tellement j'ai goûté de fruits défendus. Alors, si vous voulez connaître la dernière étape pour féconder votre damoiselle, eh bien il vous faudra vous acquitter d'un autre paiement. Alors prenez votre main poilue, vos ongles incarnés et plongez-la dans votre portefeuille. Sortez-moi une belle liasse de billets. C'est un premier pas pour sortir de votre vie de tristesse et de honte. Ne soyez plus qui vous pouvez, devenez qui vous voulez. Je suis Gustave Henry, boussole de vie. Si vous voulez que ça change avant les années 50, autorisez-vous à me donner de la monnaie sonnante et trébuchante.
Erictus, Erictus.
Excusez-moi, ce monsieur Henri a-t-il un frère disponible ou il est
tout
célibataire?
Tout à fait. D'accord. Non, il a un frère, Émile Louis. Il sera ravi. De...
C'est pour une amie.
Bien, voilà. Que de bons conseils. Que de bons conseils. Faisons un bilan de cette émission, ma foi. Alors que nous arrivons, nous touchons un petit peu vers la fin. Est-ce que tout le monde... J'aimerais donner la parole aux femmes. Oui, je sais. Mais... Comment allez-vous
ce soir, hein.
Écoute, j'ai envie de casser les codes, tout simplement. J'ai envie de savoir comment allez-vous.
Il manquerait plus qu'elle ait leur journée dédiée, quoi.
Non, mais attendez, n'allez pas jusque-là.
Elles n'auront jamais le droit.
Jamais, enfin. Déjà, faudrait célébrer les mères en plus, vous êtes des malades, vous.
Les grand-mères.
Les grands. Non, mais.
Peut-être même les.
Attendez, très cher, c'est naturel, en fait.
Ça me paraît très révolutionnaire, mais.
Non, mais c'est la nature, hein. C'est la nature, en fait. D'être une mère, d'être une grand-mère, c'est la nature,
bien sûr, l'instinct
de pas avoir de droit.
Plus fort que tout.
Naturant.
Tout à fait.
C'est pas nature.
Quel
naturant.
Charmant babillage.
Eh bien, voilà qui nous fait perdre du temps, mais cela est bien, car nous étions en avance. Nous vous offrons ce temps gentiment. Nous allons passer à un peu de musique encore une fois avec un morceau de Fanny Brice ou peut-être Fanny Brice, mais je ne sais pas.
Brice.
Fanny Brice avec Mayeman.
17 years ago, a brilliant audience of first-nighters trooped into the Globe Theater on Broadway for the opening of another Ziegfeld Follies, an annual affair which had already become a significant event to New York and the theater. That night, the crowd cheered the glorified glamour girls, laughed with such comedians as W.C. Fields and Raymond Hitchcock, but the highlights of the show, the moment that electrified the audience, was a song. The scene was the Montmartre section of Paris, the singer, a shabbily dressed girl leaning against a lamppost. Ever since that night, the song and the singer have been linked in the popular imagination, and so we are happy to yield to popular demand this evening and present this great artist singing a song she made famous. Ladies and gentlemen, Fanny Brice sings My Man.
But there's one thing that I've got. It's my man. Cold and wet, tired you bet. But all that I soon forget with my man. Not much for look, and no hero out of book is my man. Two or three girls has he that he likes as well as me, but I love him. Don't know why I he isn't good, he isn't true, he beats me too. What can I do? Oh my God, I love him so. Never know. All my life is just a spare, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I am here. Forevermore. Oh my God, I love him so. He'll never know. All my life is just a spare. I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. And what's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, kind and dear.
Erictus, Erictus.
Eh bien, voilà.
Et donc c'est quand même très anglo-saxon, hein, toutes ces chansons.
Il est vrai, mais...
Même pas un petit Fernandel, un petit Bourvil...
Ou une Mistinguette.
Voilà.
Eh bien, effectivement, nous avons axé notre programmation sur l'autre, outre-Atlantique, car il y a des mouvements très forts qui viennent de là-bas et on avait envie d'importer cela ici, en France, en tout cas de contrer.
Ça mériterait peut-être qu'on ait un ministère de la culture pour contrôler tout ça, ce serait pas mal.
Allons, bon, mais nous n'avons pas d'argent à mettre là-dedans, mon cher David.
Non, mais je sais bien, mais bon.
Vous êtes un superficiel, c'est une femme qui vous le dit.
Le plus important, c'est de réarmer la natalité, c'est tout. Ah,
arrêtez de tirer à blanc.
Monsieur David, faites votre travail un peu.
Je m'y emploie et je vous montre quand vous voulez.
On en parle après.
Oh là là, mon Dieu.
Allons, je vous en prie, point de bagatelle autour de cette table, s'il vous plaît.
Oh là là.
Ne banalisez pas le mariage, s'il vous plaît.
Cette institution, sans qui tout serait cassé, ce serait l'apocalypse, c'est tout. La société s'écroulerait, bien sûr, s'il n'y a pas les piliers moraux et fondamentaux.
Le fondement de notre société, tout à fait.
Bien sûr, absolument.
Ça et la religion.
Exactement. Et la religion est tout à
et
fait.
Et le travail.
Et les voitures de chez les frères Peugeot.
La famille
verre de Newhall quand même.
La
de temps
patrie
en temps.
Quand même.
Ah, la mère patrie. Ne l'oubliez pas, c'est elle qui nous porte, nourrit.
J'ai cru entendre qu'il y avait.
Non, pas, c'est pas la mère, on est d'accord.
Et apparemment, il y aurait un projet d'interdire le vin aux enfants à la cantine.
Ah, non, non,
ça n'arrivera jamais, croyez-moi.
Pas dans 40 ans.
Non.
Rappelez-vous qu'un enfant avec un bon rouge, ce n'est pas un enfant qui bouge.
C'est un enfant soigné.
C'est un enfant soigné, tout à fait.
Ouais. C'est un bon enfant.
C'est tout à fait, tout à fait. Eh bien, le saviez-vous.
Baigné dans de bonnes valeurs.
Le saviez-vous pas, nous sommes la première émission à envoyer quelqu'un grâce aux moyens techniques et radiophoniques de l'ORT.
De la maison de la radio.
De la maison de la radio, la maison nationale de la radiophonie.
Émise depuis la tour Eiffel.
Tout à fait, notre monument national.
Unique et majestueux.
Eh bien, grâce à cela, nous avons un envoyé spécial, c'est ce qu'on dit. Alors, pourquoi spécial? Je ne sais pas. En tout cas, on l'a envoyé quelque part.
Il est un peu spécial, quand
même. Il est un peu spécial, en effet.
Il a accepté.
Il va voir les belles régions de notre France. Il parcourt les nationales et il
va tester le pinard.
Et il va tester le pinard, tout à fait. Mais il va tester plein d'autres choses. Et nous le retrouvons tout de suite, Jean-Marc Fulcrute, pour sa petite chronique Hip 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 pour la fête du slip. Eh bien, voilà, je suis ravi d'avoir de vos nouvelles, mon cher Sébastien et toutes les personnes dans l'équipe. Je suis actuellement à Chienlit-sur-Yvette, petit village près entre la Creuse, la Beauce et le Puy de Dôme.
Qui s'y fait, lui? Il parle tout seul?
Qui parle?
Ouais,
mais non, bon, mais bien sûr que non, je ne parle pas tout seul, je parle à un équipement. Vous savez que des gens vous entendent à travers moi.
Hein? Mais c'est le démon.
Arrêtez, non, ça va pas recommencer. Oh non, ça suffit, parce qu'à Fistule-sur-Mer, j'avais eu le même problème. Ça va maintenant, hein. Écoutez.
T'as le verre vide, tu bois quoi?
Ah, eh bien, je veux boire. Alors, justement, j'attends bien, car nous sommes là pour votre concours annuel d'alcool de contrebande.
Il n'y a que de l'alcool traditionnel ici.
Et on y va pour les deux contrebandes. Allez, c'est parti.
C'est fait maison ici, c'est tout. Ah, la contrebande,
c'est familial.
Oui, mon chéri, c'est familial.
Eh bien, excusez-moi, j'avais mal compris. Il me semblait que c'était en réaction à la prohibition aux States, aux États-Unis des Amériques.
Où ça?
De l'autre côté d'une étendue d'eau.
Quoi? De le côté de la Creuse?
C'est étendue d'eau, ça.
C'est un peu plus loin que la Creuse, effectivement.
Et est-ce que tu veux de
Eh bien, pourquoi pas, de l'agneau de contrebande.
Bah,
alors, famille, je serais ravi d'en savoir plus, un petit peu sur l'histoire de ce concours, finalement.
Remplir une carafe dans la baignoire.
Allez. Tiens, allez.
Est-ce que quelqu'un veut parler? Est-ce que quelqu'un veut parler?
D'abord, ouais. Tu bois.
Allez, ici.
Allez, on boit.
On parle pas d'abord, on boit.
Alors, voilà. Côté un petit peu consterné.
Si ça pique les yeux, c'est bon.
S'il y a de, si y a de la mâche, avale.
Ça me pique tout ce que ça peut piquer, hein. Ça c'est sûr.
Et du coup, t'as des questions ou quoi?
Eh bien, la question c'est d'où vient ce concours?
De la baignoire.
Ouais, alors du coup, on a chacun une baignoire.
Chacun.
Voilà. Oui. Chacun une baignoire. Et du coup,
fait quand vous avez 12 baignoires.
L'hiver dernier, moi j'avais récupéré un sac de pommes de terre. Et j'avais fait tomber dans ma baignoire. Et il a plu. Et bon, du coup, la salle de bain, bon, elle est dehors, je vous dirai un bruit. Enfin, bref, vous comprenez. Et puis, à un moment, quelques mois après, je goûte. Wouah! C'était super bon. Du coup, j'ai dit, GG, viens voir. Et du coup, il a goûté. Il a dit, waouh, comment t'as fait? Je pense que c'est les pommes de terre. Je lui ai passé les pommes de terre, il les a mises dans sa baignoire. Et ben après, du coup, on a commencé à comparer.
Oui, ouais, on a testé et c'est bon.
Et ouais, mais du coup, moi c'est meilleur, évidemment.
Et vu qu'il s'appelle Kléber et que ça commence par un K, on a appelé ça l'Odoka. La Vodoka.
Vodoka.
Et je vois cette femme.
Elle fait tomber dans la baignoire.
Oui, elle était petite.
C'est Marceline. Calme-toi.
Elle est testeuse. Parce qu'il faut des testeurs aussi. Ouais, il en faut pour les femmes. Parce que les femmes, il faut un alcool un peu moins fort.
Ouais. Et c'était bien les pommes aussi.
J'ai plusieurs questions. J'aimerais savoir par exemple.
Tu reprends un verre, toi.
Bah oui, genre alors.
L'alcool, c'est la vie.
Attends,
on n'a pas ramené la prune. Ramène la prune.
Bah, la prune, ok. Du coup, je vais récupérer dans le seau.
Est-ce que je peux avoir, quand même, pour la madame qui a l'air complètement déchirée, vous avez commencé quand le concours?
Marceline.
Concours.
Et la testeuse.
Je vais la chauffer. Je me rêve. Dimanche. Le jour du Seigneur.
Elle est capable de dire combien ça fait de degrés. Combien de degrés, Marceline?
Alors moi je suis pas d'accord. Moi je suis
43, elle a dit.
Ok. Bah, on a tous compris pourquoi tu
traduis. Parce que son machin, il comprenne rien.
Il est pas d'ici, il comprend pas.
Il comprend pas.
Appelle le curé, tu vas voir, il va lui expliquer. Oh. Le curé,
il ramène son eau de vie.
C'est lui le juge.
Mes bien chers frères, s'il vous plaît, c'est la sœur Marie qui vous parle. On est au courant que votre concours a lieu tous les ans. Il serait à propos de respecter ce lieu saint et ses silences et de ne pas vous servir
on va te respecter.
S'il vous plaît, non mais enlevez vos mains, s'il vous plaît. C'est une toge.
Ouais,
ça suffit maintenant.
Voir,
il suffit. On ne se rapproche pas du Seigneur comme ça.
Et ton eau bénite, elle est dégueulasse.
Tiens, prends de la prune. Tiens, voilà.
Mets des patates dans l'eau bénite.
Quoi,
mais les passagers en vin là, nous on respecte, c'est tout.
Il nous le vin. C'est une arnaque.
Je me permets de.
Arrêtez de me forcer.
On va mélanger le verre de messe avec le reste.
Allez, mets des patates.
Des patates,
allez, boum. Ne mettez pas les patates dans le petit Jésus, enfin.
Ah bah si, attends.
On a déjà mis des pommes dans le petit Jésus, alors on peut mettre des patates.
Qu'est-ce qu'il n'est pas, ce con?
Oh là 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 là! Encore?
Vous avez pas achevé!
Il a mangé des pommes!
Et regardez, ça fait de la brioche fouée!
Versez-lui un petit peu de brut sur la gueule!
Mais vous n'avez pas honte!
Voilà, voilà! Bah oui, bah écoutez, vous êtes tombé dans les pommes, justement!
Et quand veut, ça passe!
À vos épouses!
Mais il a dit, ceci est mon corps, mangez-en tous! Hein.
Alors, nous, mais qu'est-ce qu'elles vont faire, nos épouses? On va les battre, et puis c'est tout!
Bah,
attends!
Mais bah, ouais!
Marceline!
Marceline!
Mon père, au secours!
Marceline, t'es à poil! T'es à poil, lui, Marceline!
Je n'aurai qu'un conseil, chers auditeurs. Fuyez.
Il y a un alcool avec des poils ou pas?
Non, laissez-moi.
chats prudes comme les vôtres.
Erictus. Erictus.
Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on
c'était
ait
un guet-apens.
Des nouvelles de Jean-Marc de sitôt.
Je elle est belle, la France. Hein. Elle est belle.
Permettez, je vous en prie, ne dites pas n'importe quoi, allons, voyons.
On peut pas cautionner, quand même. J'en viens à mon idée du ministère de la Culture, mais ce serait bon d'éduquer tous ces petits pouzeux, quand même.
C'était plus le ministère de la Biture.
Tout à fait.
Mais ça, c'est l'intérieur.
Ces gens m'ont l'air fort attaqués, quand même, hein.
Tout c'est la province.
L'abus d'alcool est mauvais pour la santé.
Écoutez, moi j'ai un cousin qui habite en Bourgogne. Il est tout à fait bien. Hein. Il est comme eux. Il est sous seulement 12 heures par jour. Seulement.
Mais est-ce que de sa Bourgogne, il sort des fois de sa coquille?
Bah non, c'est un bœuf. Il n'y a pas de coquille.
Non, mais c'est un escargot.
Merci.
Très bien.
Messieurs, il serait temps d'ouvrir un livre de cuisine et de vous renseigner.
Un livre de
De quoi?
Bah justement, parlez de ce que vous connaissez, donc d'alcool, s'il vous plaît, merci.
Un livre d'alcool. Eh bien, plutôt que de l'alcool, je boirais bien un thé. Et notamment, cela tombe bien, car notre chère Marion Harris nous propose un tour de chant qui s'appelle Tea for Two.
Upon your knee, just me for you, and you for me, just me for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known here that we own a telephone. And I'll awake and softly bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be?
Erictus.
Eh bien, nous revoilà pour la quasiment fin de l'émission. Décidément, que de choses palpitantes se sont produites, n'est-il point?
Oh là là.
J'ai l'impression qu'on a pris de la bouteille ce soir.
Mais on a failli se noyer.
N'avez-vous pas peur de la censure après une émission aussi osée?
C'est scandaleux des femmes et de la bouteille.
Eh bien oui, eh bien c'est peut-être ça qu'il aura dans des années et des années. Et ce sera normal pour tout le monde.
Oh là là, donc.
Vous êtes vraiment tellement en avance.
Vous êtes un visionnaire.
Je suis peut-être un visionnaire ou peut-être un fou, je ne sais pas.
La censure partout et vite.
Allons bon.
Oui, c'est la censure bon. Émotionnelle.
Mais qu'est-ce qui vous arrive? J'ai envie de dire, mais...
Je suis tout à fait d'accord. Allons bon.
Allons bon. Allons, merci, allons très bon, bien. Allons bon. Oh les cœurs, les amis.
Mais donc.
Que se passe-t-il donc
ça
ici?
Ça se dévergonde ici ce soir.
Mais oui, exactement. C'est exactement ce que vont se dire les autorités. Mais que se passe-t-il donc ici? Que se passe-t-il, Sigmund?
Dans les épisodes précédents, la vie suivait son cours révolutionnaire dans le domaine familial et la plantation de roses. Alors que l'ombre de la famille de Cindy semblait s'éloigner pour laisser place peu à peu à une sensation de paix nouvelle et à l'arrivée d'un futur empreint de liberté et de construction marxiste au service de la classe laborieuse, Sigmund et Cindy apprenaient à vivre cette nouvelle réalité. Lui tempérant ses élans anarchistes pour espérer asseoir un projet plus vaste de contamination de l'environnement social au-delà des limites du domaine, elle, se découvrant à l'autodétermination et aux joies de la conscience de sa propre puissance. Mais cet équilibre restait fragile entre deux, et Sigmund se sentait brimé et retenu dans l'avancée de son grand projet. Alors que Cindy s'était absentée, prise dans un rôle d'égérie à l'extérieur du domaine, nouvelle représentante d'un mouvement d'émancipation qu'elle ne voulait plus quitter, Sigmund allait seul être confronté à ses démons.
Tâchons de parler entre gentlemen.
Un gentleman, vous? On ne saurait vous attribuer un tel qualificatif devant tant de forfaitures.
Sigmund, nous sommes des gens de société. Nous ne pouvons nous rabaisser à de telles inepties dignes de basse couche de la plèbe.
Silence. Je ne vous reconnais aucune vertu sinon celle de votre fourberie. Oserez-vous me soutenir que vous, vous êtes un homme d'honneur?
Sigmund, nous avons affaire à parler entre hommes.
Ainsi donc, il nous faut parler, Brendan.
C'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses semblables, Sigmund, et je dois bien avouer que la leçon me fut assénée avec moult force. Je m'avoue avoir perdu cette première manche. Mais peut-on pour autant dire, si je me considère perdant, que vous, vous sortez victorieux de cette situation?
Eh bien, diable...
Diable, oui! Sigmund, nous sommes hommes de conviction, de combat, d'honneur et de morale. Et si nous ne sommes pas du même côté de la barrière, nous ne pouvons faire mentir notre caractère. Questionnez-vous, ami, et dites-moi honnêtement si le contrat que vous avez signé ici correspond à votre idéal.
Brendan, vous jouez votre partition sur une corde raide, je vous préviens.
Ne me faites pas la morale, Sigmund. Nous œuvrons à nos façons pour un monde meilleur et je ne peux que voir que la situation nous échappe à tous deux. Quelle que soit la fin que nous recherchons, vous et moi, sauriez-vous me dire réellement qui commande ici désormais?
Mais qu'insinuez-vous?
Sigmund! Vous avez délaissé votre propre combat, votre engagement, votre lutte devant la première jouvencelle venue. Alors même que vous aviez renversé un monde de la manière la plus romanesque qui soit, vous voilà désormais passé de chef à servant!
Brendan, je vous suggère de ne pas vous aventurer sur un terrain que vous ne maîtrisez pas.
Réfléchissez, Sigmund! Qu'avez-vous accompli depuis cette prise de vos domaines? Qu'est devenu votre grand projet révolutionnaire? Et si je devais reconnaître ma classe et mon allégeance à cette bourgeoisie que vous haïssez, alors je me gosserais si fort devant votre soumission à une nouvelle autorité. Vous vous laissez diriger comme un mouton désormais. Vous êtes entravé, menotté, mis en cage, et tout ça par une femme qui encore il y a peu n'était pour vous qu'un symbole d'aliénation et de domination. Qui est le dominé désormais? Oui, ami, je me gosse de votre situation. Peut-être étais-je perdant, mais au moins, je ne me suis pas compromis devant le premier jupon. Quel fier révolutionnaire vous faites là ?
Sigmund voyait venir la conclusion de cette rencontre. Il comprenait par la raison le stratagème de Brendan qui ne voulait que semer la discorde dans le domaine entre lui et Cindy. Mais pourtant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir du vrai dans ses propos. Il savait déjà depuis quelque temps, dans une posture de suivant, de demandeur, alors même qu'il se voyait grand libérateur de sa classe. Il regarda la plantation autour de lui et ressentit la cage fermée autour de lui.
Brendan, je vois votre petit jeu. Vous voulez récupérer le domaine, votre place. Vos intérêts sont bien trop évidents pour se laisser prendre à un tel argument. Oh oui, je ressens de la contrainte, de l'impatience, de la frustration. Mais comment pourriez-vous imaginer que cela me fasse m'éloigner du chemin qui se dessine devant moi ?
Sigmund disait cela, mais la brèche était faite. Son envie de prendre la main sur les décisions, d'accélérer la transformation du domaine et au-delà de toute la réalité sociale de la société était trop forte. Mais le remords le prenait. Et Cindy ? Brendan le regardait et voyait son poison se répandre dans l'esprit de Sigmund. Il voyait à quel point les sages enseignements de sa famille faisaient leur office. Il remercia intérieurement son père pour toutes ses leçons sur les meilleurs moyens de faire plier un adversaire. Il se sentait terriblement puissant. Il fallait encore appuyer un peu pour que tout se mette en branle.
Enfer et damnation, Brendan ! Vous me giflez ? Est-ce ainsi ? Est-ce un défi que vous me lancez ?
Si frêle, Sigmund, comment pourriez-vous penser que je m'abaisse à vous lancer un défi, pauvre air misérable ? Je veux vous réveiller, voyons ! Que vous redeveniez cet homme puissant qui nous a défait de ses actes ! Reprenez-vous, bon sang ! Vous êtes indigne de vos idéaux, vous me faites pitié, je tiens à vous pour vous proposer une situation, une solution, un but commun, une alliance, et vous, vous voterez dans une fragilité digne des plus basses humanités. Vous êtes fait pour diriger, et non être commandé. Comment pouvez-vous abandonner votre lutte pour une femme ? Vous êtes un traître à votre propre cause. Je ne sais même pas pourquoi je m'esquine à vouloir vous venir en aide.
Une alliance ? Mais comment ?
Taisez-vous, Sigmund. Je pensais que ça aurait été évident. La force appelle la force. Je pensais que vous trouvez inconscient de la situation et prêt. Je pensais à vous trouver conscient de la situation et prêt à vous relever de cette léthargie qui vous rend si pleutre. Mais je vois que je me trompais.
Brendan, je ne comprends pas. Tout nous oppose, pourtant.
Sigmund, vous êtes encore un jouvenceau qui joue à la bataille quand les hommes gagnent des guerres qui transforment l'humanité entière. Je crains que je ne me sois trompé. Peut-être vous faut-il juste du temps. Réfléchissez, Sigmund. Repensez à vos rêves. Peut-être que bientôt, c'est vous qui viendrez me trouver.
Brendan, se retenant de rire, laissa Sigmund seul avec ses introspections. Quelle vilainie avait-il instillé dans l'esprit de Sigmund ainsi renversé ? Sigmund se sentait dévasté, retourné par un miroir qui se voulait lui renvoyer une image qu'il avait pourtant passé des années à déconstruire. Mais les fées n'étaient-ils pas là pour appuyer cette argutie guerrière si désirable ? Ne ressentait-il pas au plus profond de lui cette énergie qui réclamait l'acte puissant, l'autorité affirmée, la domination totale ? Sa cause ne demandait-elle pas l'abandon entier à la lutte, au-delà des considérations progressistes qui ne faisaient que le retarder ? Avait-il trahi son propre combat ? Cindy était-elle vraiment l'alliée, ou était-elle une illusion qui l'entraînait dans les raids de sa propre perdition ? Cette femme était-elle celle qui le mènerait, lui, à la place du meneur incontesté qu'il réclamait ? Ou était-elle un amusement passager, une diversion charnelle, une perte de temps futile et idiote qu'il avait égaré sur la route de sa destinée ? Que se passait-il dans sa tête désormais ? Retrouvez Cindy, Brendan et Sigmund dans le prochain épisode de Mais que t'arrive-t-il ? Cindy, fête du travail et émasculation festive.
Erictus. Erictus.
Eh bien, voilà qui est bien sympathique et bien amusant, en effet. Mais alors, dites-moi, mon cher David, ce sont donc des épisodes, ça c'est feuilletonnant, cette histoire.
Et oui, c'est un concept nouveau, je sais, c'est complètement fou, la radio ayant à peine 2 heures, vu que nous venons de lancer la première émission du monde.
Absolument.
Mais je crois que ça existe déjà dans les journaux.
Ah, non, ne parlez pas de la presse écrite, s'il vous plaît.
Oui, rien à voir. C'est un art mineur. Nous, nous sommes sur les ondes. Nous sommes dans les oreilles des gens. Imaginez toutes les oreilles dans lesquelles nous sommes.
Au moins trois.
C'est incroyable.
Sentez-vous ces tympans, ces petites croûtes, ces cérumènes. Eh bien oui, nous sommes là-dedans.
Et moi, je vous le prédis, un jour, tout le monde aura un poste à galène sur soi, portatif, pour nous écouter n'importe où.
Oh, mais vous êtes complètement fou, mon
Et
cher
pourquoi
David.
Pourquoi pas le cinéma bavard.
Du coup, non.
Eh bien, justement, j'aimerais faire un dernier tour de table avant la fin de cette émission. À votre avis, quelle sera l'invention qui va changer nos vies dans le futur? Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Allez-y, la parole est à vous.
Eh bien, je pense que dans les années 1957, à peu près, je suis pas trop précis, les chariots et autres charrues seront volantes.
Eh bien, voilà qui est bien ambitieux.
J'aime, et j'irai même plus loin. Je pense qu'un jour, nos chariotes nous mèneront peut-être sur la Lune.
Oh mon Dieu.
Allons, vous allez trop loin.
Et pourquoi pas sur Mars?
Eh oui, tout à fait. Et après Mars, on repart.
Mais on repart où?
Mais on ne sait pas.
Avez-vous d'autres idées?
Après ça, non. Enfin, si, bien un truc que ce serait petit, plus ou moins discret, plutôt tourné pour nous les femmes, voilà, quand même.
Oh là
un
là
peu.
Là,
toujours
tous les femmes, les femmes.
C'est un truc qui, genre, aspirerait de manière constante.
C'est pour la vaisselle.
Et de manière régulière, une toute petite partie du corps qui est trop souvent oubliée.
Eh bien,
n'existe pas d'ailleurs en cette année 1920. Et en fait, ça ferait genre beaucoup de bien, quoi.
Je vois pas du tout l'intérêt.
Pour faire plaisir à une femme, non? D'accord.
Pour faire plaisir à une femme, il suffit de la considérer, tout simplement.
Voilà, des fleurs.
Pourquoi
et
ça
baissait?
Mais bien sûr. Et encore. Et encore.
Voilà, le poulet du dimanche, je l'honore.
Bon, on n'est pas sorti du sable. Hein.
Est-ce que vous avez d'autres idées? D'inventions incroyables.
Ce qui serait super aussi, c'est vous savez, une espèce de mini gramophone qui ferait de la musique, mais dans nos poches directement.
Allons, dans
mais
nos
ça n'est
poches,
pas possible. Oui,
qu'on pourrait t'emmener partout avec
mais
nous, dans nos chariots, au marché, ou par exemple en utilisant le petit aspirateur mentionné par ma collègue.
Un aspirateur qui ferait de la musique. Je ne comprends plus.
Et pourquoi pas non plus discuter entre nous avec ce petit gramophone?
Mais pourquoi pas? Vous imaginez? Vous envoyez
il
des très petites
films,
lettres très courtes attendant une réponse immédiate.
Non, mais vraiment, ça, c'est
quoi.
Totalement aberrant. Et pourquoi pas carrément se filmer pendant quelques secondes? Vous connaissez
le
cinématographe?
Ah oui, bien sûr.
Le cinématographe.
Mais vous voulez dire qu'on pourrait faire ça avec un cinématographe aussi?
Exactement. Enfin,
c'est incroyable.
N'importe
non,
quoi.
D'accord. Toujours pas, donc.
Il aspire à autre chose, je crois.
Eh bien, merci.
Une chute.
Merci pour ces idées. Seront-elles concrétisées un jour ou l'autre? Nous ne le savons pas.
Mais si, on le sait.
L'avenir le dira. Taisez-vous,
s'il vous plaît,
Cyril.
Seigneur, s'il vous plaît, petit Jésus.
Petit Jésus.
Eh bien, tout à fait. Nous finirons peut-être par un tour de table pour d'éventuelles réclames pour du spectacle vivant. C'est assez étonnant.
Pour dans 100 ans. Quoi? Pour dans 100 ans.
Pour dans 100 ans. Tout à fait. Imaginez-vous, projetez-vous, fermez les yeux, imaginez-vous, le vendredi 8 mars 2024, et dans la Maison des Jeunes et de la Culture de Castelnau, il y a ce qu'on appelle une scène ouverte, où toutes personnes peuvent se produire. Tout à fait. Mais justement, patience et longueur de temps valent bien
la merde de qu'on a
dans le genre, tout à fait. N'hésitez pas, c'est une scène ouverte où tout le monde pourra se produire. La troupe d'improvisation théâtrale Les Démons du Midi s'y produira et j'aurai le plaisir d'animer cette soirée. Et le lendemain.
Dans 100 ans.
Dans 100 ans, oui. je ne fais pas mon âge, mais je suis bien
conservé.
C'est
peut-être votre petit-fils.
Tout à fait, c'est la lignée, la grande lignée de toute façon, qui a appelé à conquérir le monde un jour. Et le samedi 9 mars, à la Maison des Jeunes et de la Culture de Castelnau-le-Lay, vous trouverez un spectacle de la troupe des Démons du Midi qui s'appelle Sur la Touche, où les improvisateurs improviseront accompagnés d'une pianiste qui fera donc du piano.
Alors, ça m'a l'air fort sympathique.
Je voudrais juste dire que Castelnau-le-Lay, ça n'existe pas encore parce que le lait, le fleuve, n'a pas encore été inventé.
casseur d'ambiance, hein.
Eh bien, Cyril, j'ai envie de vous désinventer.
Ça fait longtemps que les vaches font du lait.
Toujours pas d'asthme, d'accord.
Eh bien, sur ce, si personne d'autre n'a quelque chose à dire, un bon mot peut-être pour finir.
Un aspijou.
Un aspijou.
Tout à fait. Un aspijou. Tout à fait, un aspijou.
Eh bien, nous...
C'est une espèce de singe. Alors non, mais ça a la forme d'une bouche comme ça, et en fait ça se place à une partie du corps où vous savez.
Mais cette idée,
vous savez,
si, ouais, cette idée d'aspirer, ça me paraît pas mal. Ça pourrait remplacer un balai.
Vous devriez peut-être essayer en fait.
Hein, ça pourrait pas remplacer un balai, ça pourrait vous être très utile.
Oui, c'est pour le ménage, pour dépoussiérer des choses inutilisées ou mal comprises.
Eh bien, sur ce vœu pieux, nous allons donc nous quitter. On se retrouve le mois prochain, évidemment, ou peut-être dans
20 ans.
Dans 100 et quelques années, sait-on jamais. Nous verrons les ondes, nous survivrons toujours. Qu'importe les époques, nous y survivrons.
Est-ce que et nous avons gravé cette émission quelque part?
Quand même pas.
Avons-nous gravé cette émission quelque part?
Elle sera gravée tout à fait sur un gramophone pour l'écouter.
Dans la grammaire française.
En faisant du Charleston ou du Lindy Hop. Merci encore. Au revoir, chers auditeurs et auditrices.
Bien le bonsoir. Thank you.